Chapitre 8 de la fausse humilité. Il n'existe peut-être aucune vertu où l'illusion soit aussi facile et où l'on puisse prendre plus aisément pour humilité ce qui n'est en effet qu'orgueil ou amour-propre. Il est donc très important de dire quelque chose des fausses humilités ou, si l'on veut, de l'amour-propre couvert des apparences de l'humilité. Il y a beaucoup de chrétiens, dit saint Ambroise, qui ont l'apparence extérieure de l'humilité, mais il en est peu qui en aient la vertu. Il y en a qui font paraître extérieurement cette vertu par leurs paroles et qui la combattent intérieurement par leurs sentiments. Il est donc bien important de connaître les caractères de la vraie et de la fausse humilité. Premier point, la vraie humilité réside dans le fond du cœur. Elle est sans fard, sans dissimulation, sans faste. Elle est inséparable d'une sincérité d'esprit et de cœur toute sainte. Autrement, ce n'est qu'une pure hypocrisie et un fantôme d'humilité. Elle est d'une douce candeur et d'une simplicité d'enfant, ainsi que le recommande le grand maître de l'humilité Jésus-Christ, fils de Dieu et sauveur des hommes. Deuxièmement, la sainte humilité ne consiste pas dans les paroles, dans les compliments, en certaines cérémonies accompagnées de termes humbles et modestes. On peut faire tout cela sans pratiquer l'humilité et même par orgueil ou amour-propre. On se blâme pour s'attirer des louanges, afin qu'étant contredit, on verse plus abondamment cette misérable liqueur que l'on boit avec tant de plaisir dans la coupe de la vanité. Troisièmement, la vraie humilité ne consiste même pas dans l'humilité d'esprit qui est fondée sur la connaissance de son néant et de ses crimes. Les démons eux-mêmes ont cette sorte d'humilité. Ils connaissent parfaitement leur indignité et la malédiction dont ils ont été frappés. Pour connaître son néant et ses misères extrêmes, il suffit de n'être pas privé de l'usage de la raison. Quatrièmement, la vraie humilité réside dans le cœur. C'est pourquoi le Seigneur Jésus parle spécialement de celle-ci dans l'Évangile. Ainsi, se plaire dans son néant et dans ses misères, aimer tout ce qui humilie devant Dieu, devant les hommes et à ses propres yeux, ses péchés même et ses imperfections en tant qu'elles abaissent et font connaître ce que l'on est, ne s'attribuer aucun bien. Faire fuir l'honneur et la gloire du monde, détester tout ce qui a l'ombre de grandeur et de vanité, ainsi que les louanges, se réjouir au milieu des mépris, des humiliations et des abaissements, c'est ce qui fait la perfection de l'humilité. Concluons de là que ceux qui semblent être humbles, lorsqu'ils ne se présentent aucune occasion d'être humiliés, mais qui se troublent quand elles s'offrent, ne sont humbles que par la vertu des autres. La paix et l'humilité ne logent point chez eux, mais dans ceux qui les épargnent. Ils ressemblent aux eaux mortes et croupissantes des marais, qui ne sentent point mauvais tandis qu'on les laisse reposer, mais qui exhalent une puanteur étrange quand on les remue. Ils ressemblent à ces montagnes dont parle le prophète, qui paraissent belles au dehors, mais qui, dès qu'on les touche, jettent feu et flamme. Touchez ces montagnes, vous voyez une épaisse fumée s'élever, le feu de la colère les transporte. Est-ce là être humble? Concluons encore que ceux qui, après quelques contradictions, quelques mépris, s'emportent et disent qu'ils sont prompts, reconnaissent par là même qu'ils ne sont pas humbles. Il n'y a pas d'injure capable de nous fâcher si nous pensions tout le mal de nous que les autres en peuvent dire ou penser. Cinquième point, celui qui est véritablement humble est parfaitement obéissant parce qu'il a renoncé à sa propre volonté. Il se laisse conduire comme on veut, il plie à tout, il ne résiste à rien, parce qu'il ne serait pas humble s'il avait un choix et une volonté, un raisonnement sur ce qu'on lui ordonne. Il n'a de penchant propre pour aucune chose, mais il se laisse pencher du côté que l'on veut. Oh, l'admirable vertu! Concluons de là qu'un des caractères est l'insubordination. Tel a été le caractère de tous les hérésiarques. Ils n'eussent jamais été tels s'ils avaient été humbles. Quelle misère! On voit des personnes qui souhaitent, disent-elles, être humbles, être tourmentées par les tyrans pour la foi. Et ces mêmes personnes ne peuvent se résoudre à soumettre leur volonté à celle de leur supérieur ou de tout autre serviteur de Dieu. La meilleure humilité, c'est l'assujettissement et l'obéissance. Que vous sert de désirer de combattre des géants que vous ne rencontrerez jamais si vous vous laissez vaincre par les moucherons qui vous entourent? Combien, hélas, n'en voit-on pas de ce genre? Combien n'en voit-on pas dans l'extérieur, dont les paroles ne respirent que l'humilité, et qui, au moindre ordre qu'ils reçoivent de leur supérieur, à la moindre épreuve où ils les mettent, à la moindre contradiction, jettent feu et flamme, ou du moins montrent une grande répugnance et n'obéissent qu'en murmurant? Est-ce là l'humilité? Un auteur fait ici une réflexion bien triste. Pourquoi, dit-il, pourquoi a-t-on vu de tout temps que la vanité la plus indocile se trouve parmi les reclus et les personnes d'une profession sainte? C'est parce que, dans ces états, on croit avoir plus de droit de dire « je ne suis pas comme les autres ». Voulez-vous éviter un malheur aussi grand, un malheur qui vous ferait perdre tout mérite devant Dieu? Soyez soumis à vos supérieurs, pour l'amour de Dieu, que votre unique volonté soit de faire leur volonté. La paix de Jésus-Christ, sa sainte grâce seront votre récompense dans ce monde, et sa gloire le sera dans l'autre. Sixième point, Dieu seul connaît celui qui est humble. Tous les autres peuvent s'y méprendre, mais personne ne peut plus facilement s'y tromper que chaque particulier. Il n'y a de véritablement humble que celui qui l'est et qui croit ne l'être pas. Concluons de là que celui qui s'aperçoit qu'il s'abaisse n'est pas encore à sa place, qui est au-dessus de tout abaissement. Ces personnes qui croient s'abaisser marquent beaucoup d'élévation. Ces sortes d'humilité n'entreront point dans le ciel, qu'elles ne soient réduites à la charité, source de la véritable humilité. Plus on aime Dieu, plus on est humble. Septième point. L'humble véritable est un de ces enfants dont Jésus-Christ a dit que le royaume des cieux lui appartient. Un enfant exprime simplement sa pensée. Il ignore les ruses et les détours. Hélas, combien sont éloignés de cette candeur. Combien s'accusent, s'humilient sans être humbles, et même pour acquérir une réputation d'humilité, pour se mettre bien dans l'esprit des hommes. Oh, combien d'illusions par rapport à l'humilité. Oh, combien d'actes de modestie qui sont admirés des hommes et qui ne sont devant Dieu que des raffinements de vanité. On a dit avec raison que les vices habitaient souvent auprès des vertus. Mais cette réflexion est surtout véritable par rapport à l'humilité. La fausse humilité se pare souvent des apparences de la vraie. Craignons donc toujours, aimons Dieu et demandons-lui cette belle vertu. Mais en même temps, il ne s'oppose à rien. Il se laisse conduire et mener où l'on veut. Il croit que Dieu peut tout faire de lui, ainsi qu'il pourrait tout faire d'une paille. Il y a plus d'humilité en cela qu'à s'opposer, par humilité, ou plutôt sous prétexte d'humilité, au dessein de Dieu. Oh, que le Seigneur aime à opérer de grandes choses par ceux qui se considèrent ainsi comme de simples instruments entre ses mains. Efforçons-nous d'entrer dans cette admirable disposition. Si Dieu ne fait rien de nous, il nous rendra justice, puisque par nous-mêmes nous ne sommes bons à rien. Mais si nous nous jetons entre ses bras et que nous mettions notre confiance en lui, il fera par nous et pour nous de grandes choses. Ce sera sa gloire. Et nous dirons avec Marie, Dieu a fait de grandes choses en nous parce qu'il a regardé notre bassesse. Fin du livre Traité de l'amour-propre par l'abbé P. Pascal, que vous pouvez trouver sur Google Livres.